Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons parler d'histoire en partenariat avec France Mémoire. C'était il y a 200 ans, le 16 janvier 1822. Nous sommes alors en pleine restauration dans une maison princière. Le duc d'Orléans donne naissance à son 9e enfant, qu'il appelle Henri. Ce garçon va s'engager dans une carrière militaire. Surtout, il va bientôt recueillir l'héritage de la famille des Condé, qui le placera à la tête d'un patrimoine colossal. Voici donc le duc d'Aumale. Son destin est à la fois celui d'un prince et d'un soldat, d'un entrepreneur et d'un collectionneur. Avec lui, l'héritage de lignées prestigieuses se mêle aux soubresauts de l'histoire de France tout au long du XIXe siècle. Nous allons découvrir ce personnage atypique aux mille facettes en compagnie de Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine au château de Chantilly, chargée du musée Condé. Bonjour Nicole Garnier.
Bonjour.
Alors le duc d'Aumale vient d'une grande famille, la maison d'Orléans. Il naît en 1822, nous l'avons dit, et son père Louis-Philippe sera bientôt roi des Français. Qu'est-ce que cela signifie appartenir à cette maison dans les années 1820, 1830 et même pour la suite de sa vie?
C'est un héritage évidemment très lourd que celui du duc d'Aumale. Il est loin d'être l'aîné, il est le 5e des garçons, Louis-Philippe et Marie-Amélie, Bourbon-Sicile, auront 10 enfants et il n'est évidemment pas celui qui doit succéder aux fonctions de duc d'Orléans, sans parler bien sûr du titre de roi Louis-Philippe. Il n'est qu'un des cadets, mais surtout c'est quelqu'un qui va être très marqué par l'histoire de sa famille. La famille d'Orléans, dans les années de la Restauration, c'est quelque chose de lourd à porter parce que c'est aussi l'héritage du régicide. Son grand-père, connu sous le nom de Philippe Égalité, duc d'Orléans qui a traversé la Révolution et qui a été guillotiné en 1793, avait tout de même commis le crime régicide de voter la mort de son cousin, le roi Louis XVI. Donc ça, c'est un peu la tâche indélébile qui va marquer la famille d'Orléans, qui va les rendre parfois odieux à certains publics lors de la Restauration. Louis XVIII, par exemple, frère de Louis XVI, ne cache pas son hostilité au duc d'Orléans, Louis-Philippe, lorsqu'il est obligé de le recevoir pour des raisons politiques et familiales. Et donc ça, c'est quelque chose qui va marquer, évidemment, l'enfance du duc d'Aumale, qui toute sa vie va chercher à rétablir l'image honorable de la maison d'Orléans. Alors il y a un volet très honorable dans la maison d'Orléans, c'est le côté de la collection. En effet, avant la Révolution française, les ducs d'Orléans avaient la plus belle collection de tableaux qui soit en France, après celle du roi, peut-être même avant celle du roi. Le régent, notamment Philippe d'Orléans, qui a dirigé la France après la mort de Louis XIV, de 1715 à 1723, avait une collection incroyable, 772 tableaux. La collection avait été dispersée à la Révolution par Philippe Égalité. Et c'est vrai que le duc d'Aumale, pour effacer la tâche indélébile de son grand-père, n'a pas eu d'autre choix que de devenir le plus grand collectionneur de tableaux de son siècle. Ce qui explique ce qu'est Chantilly et le musée Condé.
Il a donc choisi les ancêtres qu'il voulait mettre en avant. Un autre titre qu'il possède, il l'obtient presque par adoption cette fois-ci, c'est celui de prince de Condé, qui est le titre de son parrain et qu'il va récupérer finalement au terme d'une histoire assez rocambolesque.
Alors en 1830, effectivement, il n'a que 8 ans, ce petit Henri, lorsque son grand-oncle, le dernier prince de Condé, Louis-Henri-Joseph de Bourbon, prince de Condé, qui est son parrain, va faire du duc d'Aumale, donc son héritier. Alors c'est non seulement le château de Chantilly, qui est alors en partie rasé, mais c'est aussi le palais Bourbon à Paris, qui est notre Assemblée nationale, ne l'oublions pas, qui va appartenir à cet enfant de 8 ans, quelques semaines finalement après la signature de ce testament, qui va faire du duc d'Aumale un héritier riche à foison. Il est l'héritier d'une des branches de la famille royale de Bourbon. Alors pourquoi est-ce que le duc de Bourbon a choisi le petit Henri, alors qu'il y a 10 enfants dans cette famille d'Orléans? Parce que le petit Henri est son petit-neveu, bien sûr, mais aussi parce que c'est son filleul. Avec Madame Adélaïde, le duc de Bourbon va parrainer donc le jeune Henri sur les fonts baptismaux, et c'est ainsi qu'il va le choisir comme l'héritier de la famille de Condé. La famille de Condé, en effet, a perdu son dernier descendant mâle, le petit duc d'Enghien, qui avait été exécuté donc en 1804, sans autre forme de procès, un faux procès militaire, bouclé en quelques heures au fort de Vincennes, et fusillé donc dans les fossés de Vincennes. C'est l'histoire terrible de la disparition donc du duc d'Enghien, qui a marqué les esprits. Le duc d'Aumale est donc l'héritier de cette branche de la famille de Condé, dont l'héritier naturel a été supprimé violemment par Bonaparte.
Et il va vraiment s'approprier cette famille et son passé. Il va par exemple écrire l'histoire des Condé et se reconnaître d'une façon plus particulière dans une figure assez glorieuse, celle du grand Condé, à laquelle peut-être il se compare dans une sorte d'effet miroir qui lui aussi était un soldat.
Absolument. À 21 ans, le duc d'Aumale se couvre de gloire avec la fameuse prise de la Smala d'Abdelkader. Hein, on est pendant les guerres d'Algérie, pendant les guerres de colonisation. Louis-Philippe va donc coloniser l'Algérie et son fils, le duc d'Aumale, va intervenir militairement. Il a choisi la carrière des armes. Et c'est vrai qu'ayant gagné ses galons de général à l'âge de 25 ans, il va quelque part choisir parmi tous ses ancêtres Condé celui qui est le plus glorieux comme parrain putatif, c'est évidemment le grand Condé, Louis II de Bourbon, dont on connaît la brillante carrière militaire, qui lui aussi, à 22 ans à peine, va s'illustrer en sauvant la France de l'invasion espagnole, sa bataille de Rocroi en 1643. C'est 200 ans presque jour pour jour. 16 mai, 18 mai, 1843 pour le duc d'Aumale, 1643 pour le grand Condé. Donc les deux personnages finalement s'identifient quelque peu. Et le duc d'Aumale hérite de ce château de Chantilly, où la magnifique galerie des actions retrace la vie du grand Condé en 13 tableaux qui racontent les étapes victorieuses de la carrière militaire de Condé. C'est pour lui quelque chose de très important, qu'il détaille d'ailleurs à ses visiteurs. Il sait commenter chacun des tableaux de la galerie des batailles, donc les actions victorieuses du grand Condé, dans le moindre détail, en vrai militaire qu'il est. Les techniques militaires, d'ailleurs, on peut varier depuis le XVIIe siècle jusqu'au début du XIXe. Donc il est parfaitement à l'aise dans ce monde-là. Et il va commenter cela régulièrement pour ses invités, pour ses visiteurs, que ce soit les politiques, que ce soit les militaires, que ce soit les amateurs, les collectionneurs ou les érudits qu'il va accueillir dans son château de Chantilly. Donc l'héritage du grand Condé, c'est quelque chose de très important pour lui. Et de fait, il donnera au château de Chantilly, qu'il va léguer donc en 1884 à l'Institut de France, il va donner à ce domaine le nom de musée Condé. Aujourd'hui, assez oublié, on parle plutôt de domaine de Chantilly ou de château de Chantilly. Mais le musée Condé, c'est le nom que donne Aumale. Or, en fait, il aurait dû nommer cet établissement le musée d'Orléans, parce qu'en fait, c'est lui qui a pratiquement tout fait. À part avoir hérité et restauré l'aile ancienne du château de Chantilly, le reste, la collection, c'est lui qui l'a bâti, c'est lui qui l'a constitué, c'est lui qui l'a donné à l'Institut de France pour en faire donc ce musée incroyable qu'est Chantilly.
Alors, la troisième filiation du duc d'Aumale, c'est celle qui lui vient de sa mère, qui était italienne, et c'est la grande famille des Bourbons Sicile, à laquelle appartient sa mère, mais également sa femme qui était sa cousine germaine.
Oui, le duc d'Aumale, en fait, est à demi italien. Déjà par sa mère, Marie-Amélie de Bourbon Sicile, qui s'est donc mariée avec Louis-Philippe d'Orléans, le futur roi des Français, en Italie. Le duc d'Aumale maîtrise parfaitement la langue italienne. Lorsqu'elle a 21 ans, ses parents songent à le marier. Difficile de marier un Orléans dans la conjoncture du milieu du XIXe siècle. Il est le petit-fils du régicide, encore une fois. Les grandes familles royales d'Europe répugnent à donner une fille en mariage au petit-fils du régicide. Donc Marie-Amélie va envoyer tout simplement son fils dans sa famille napolitaine. Et c'est là qu'il va rencontrer donc sa cousine germaine, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, qu'il épouse donc à Palerme le 25 novembre 1844.
Lui-même va s'attacher à cette terre de Sicile et y acheter une immense propriété.
Oui, dès 1853, il achète un domaine presque aussi grand que celui de Chantilly. Hein, c'est 6300 hectares de terre à 30 km de Palerme, qu'il va acheter dans un but quasi entrepreneurial, dirait-on aujourd'hui. Hein. Le duc d'Aumale, c'est un homme aux multiples visages, hein, vous l'avez dit. Et il s'est intéressé aussi à l'économie de la Sicile. Et se sentant un peu sicilien par sa mère et par son épouse, il va tenter de dynamiser donc l'économie de cette île, qui est une île très pauvre. On a la chance à Chantilly d'avoir ses agendas, où il relate au jour le jour ses voyages dans le pays de sa femme et de sa mère. Et il déplore la pauvreté de la Sicile, une région ingrate. Il va donc tenter de faire prospérer la Sicile en créant donc un vignoble qui va être assez luxuriant et pour lequel il va faire venir d'ailleurs des ingénieurs français qui vont améliorer les adductions d'eau, qui vont drainer ces terrains, qui vont apporter l'eau nécessaire. Il va créer un produit qui va être vendu dans toute l'Europe, c'est le vin du Zouk, du nom de la propriété, donc qu'il a acheté en 1853 au prince de Partanne. Et ce Zouk, c'est un vin sucré, apéritif, qu'il va diffuser dans toute l'Europe. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider la Sicile à se développer, à vivre et avoir une économie florissante.
Vous mettez en avant l'aspect du personnage qui est peut-être moins connu, celui d'entrepreneur. Mmh. Il investit également dans la presse.
Oui, il est aussi patron de presse. Il a, alors pour des raisons évidemment politiques, il a choisi de soutenir différents journaux, journaux orléanistes bien sûr, donc journaux qui peuvent se vendre en Belgique, aussi un peu sous le manteau en France. Donc il a beaucoup joué ce rôle-là. Ça fait partie de son activité politique un peu secrète.
Alors, vous avez parlé de cette tâche du régicide chez les Orléans. Viendra ensuite une deuxième tâche qui lui vaudra l'exil, c'est celle d'être le fils du roi Louis-Philippe. Et au moment du changement de régime, du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et de l'avènement du Troisième Empire, il va devoir quitter la France une première fois et puis une deuxième fois, un peu plus tard, au moment de la Troisième République.
Oui, alors pour lui, être le fils de Louis-Philippe, c'est un honneur. Hein. Au moment où éclate la révolution de 1848, le duc d'Aumale est gouverneur de l'Algérie. Il est encore très jeune, il a 25 ans, quand il a pris les rênes de l'Algérie. Et c'est à ce moment-là que sa carrière va être brisée. Hein. Donc il dirige l'Algérie, c'est plutôt un bon gouverneur qui tente d'améliorer la situation de l'Algérie, qui est un pays pauvre encore à l'époque, bien sûr. Et donc, lorsqu'éclate la Révolution, il aurait eu le choix, avec son frère, l'amiral de Joinville, de prendre les armes et de tenter un retour en France depuis l'Algérie. Il y avait les bateaux de Joinville, il y avait l'armée française qui était basée à Alger. Il aurait pu un recours aux armes, il aurait pu tenter la chose. Il ne l'a pas fait. Il a respecté la démocratie, quelque part. Et quand ils étaient jeunes, les princes d'Orléans, que ce soit Aumale, mais ses frères, Montpensier, Joinville, le duc d'Orléans lui-même, qui décède tragiquement à 32 ans, tous avaient conscience qu'en tant que prince d'Orléans, on devait faire la fonction, c'est-à-dire porter l'honneur de la France. Et donc Aumale va accepter le choix des Parisiens d'avoir chassé son père, le roi Louis-Philippe. Il va se résigner et il va rejoindre la famille royale en exil à Londres, chez la reine Victoria, leur cousine, qui va donc les accueillir. Et c'est là, en fait, que va s'ouvrir sa deuxième carrière, celle d'amateur et de collectionneur. Il n'a que 26 ans, hein, c'est un drame pour lui, le repli en exil. Ça va s'aggraver en 1852, sa situation, puisqu'il n'aura plus le droit d'avoir des biens en France. Et donc, il va devoir vendre tous les biens qui lui venaient des Condés. Il va se retrouver aussi avec beaucoup d'argent liquide. Il est le plus riche des princes de la maison d'Orléans. Louis-Philippe et Maria Pelli sont partis sans rien de France. Louis-Philippe a même laissé dans le secrétaire du bureau les rouleaux de louis d'or qu'il avait préparés en cas de fuite rapide. Ils n'ont rien. Marie-Amélie est partie avec la robe qu'elle avait sur le dos, c'est tout. Aumale, lui, au contraire, va vendre à distance les biens qu'il a en France. Alors, l'Assemblée nationale, il l'avait déjà vendu à la monarchie parlementaire, qui était le régime de Louis-Philippe, hein, pour en faire le siège de notre Assemblée nationale. Il va vendre Chantilly, vente fictive. Hein, il pourra le récupérer en 1871, après la chute du Second Empire, sans coup férir. Il vend à ses banquiers anglais. Écoute, c'est Marjorie Banks, c'est pratique. Mais il va vendre tous les autres biens qu'il a sur le territoire français et qui lui venaient des Condés. Donc avec cet argent frais, qu'est-ce qu'il va faire? Ce jeune homme de 26 ans, qui est brillantissime, il a fait de bonnes études littéraires classiques au lycée Henri IV, il sait le latin, le grec, il est un militaire brillant, il est couvert d'honneur, il a déjà la Légion d'honneur, général à 25 ans. Bah, il va s'ennuyer beaucoup. Alors vers quoi est-ce qu'il va se tourner? Il faut savoir qu'avant la Révolution de 48, il écrivait déjà à son précepteur, qui est devenu son ami, Auguste Cuvillier-Fleury, « Je crois que je suis atteint de bibliomanie ». Et cette douce manie, finalement, va faire de Chantilly et de la collection du duc d'Aumale la plus belle collection de livres précieux de France après la Bibliothèque nationale. Donc cette manie, il va évidemment la développer dès les premières années de l'exil. Mais il va aussi très vite s'intéresser à développer l'embryon de collection qui lui venait des princes de Condé, ses grands-oncles. Il y avait quelques tableaux de maîtres qui restaient dans le château de Chantilly, malgré la disparition du grand château, la vente du mobilier. Et donc il va développer cette collection. Dès les premières années de l'exil, le duc d'Aumale, tout en écrivant l'histoire monumentale des princes de Condé, va s'intéresser à faire grossir cette collection, avec une idée très forte. L'idée, c'est qu'il est en exil, sans doute pour quelques années, ça va durer 23 ans hein, tout de même, dans un premier temps, puis ensuite il y aura 2 ans et demi d'un second exil. Et donc cet exil qui est très long, il va lui servir à acquérir, sur le sol étranger, des œuvres qui sont les chefs-d'œuvre de l'art français. Son idée, c'est de pouvoir acquérir, en Angleterre, en Italie, un peu partout dans le monde, les chefs-d'œuvre de l'art français et de pouvoir les ramener un jour en France. Ce qu'il fera donc en 1871, et c'est ainsi qu'il constituera le musée Condé avant de le léguer à l'Institut de France.
C'est le fil rouge de sa collection.
Je pense que c'est quelque chose de très important pour lui. Il va racheter comme ça en 1854 le Massacre des Innocents de Nicolas Poussin, qui est un chef-d'œuvre de la peinture française, qui avait été vendu. Les tableaux ont beaucoup circulé au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Donc il était sur le territoire anglais. Il hésite beaucoup parce qu'au moment où passe en vente le Massacre des Innocents de Nicolas Poussin, il vient de faire un autre achat important. Toujours avec cet argent qui lui vient de la vente des biens en France, il vient de racheter la collection de tableaux italiens de son grand-oncle et beau-père, donc le prince de Salerne, Léopold de Bourbon, qui vient de mourir à Naples. Et donc, il a déjà dépensé beaucoup d'argent. Mais il ne résiste pas à cet achat parce que c'est un des chefs-d'œuvre de la peinture française. C'est une œuvre importante, il la lui faut. Et puis, il va y avoir très vite ce goût pour les portraits historiques. Aumale, c'est un historien. C'est quelqu'un qui a suivi les leçons de Michelet quand il était jeune homme. Il est en train d'écrire l'histoire des Condés. Pour ça, il va rapatrier les archives de la maison de Condé qui était à Chantilly. Il va les faire venir en Angleterre. Et il va consacrer donc ses loisirs, qui sont nombreux. Il va consacrer ses loisirs à écrire cette histoire des Condés. Et il va chercher aussi à acquérir des portraits historiques, les portraits de ceux qui ont fait l'histoire de France, les portraits de sa famille, parce que la branche d'Orléans, c'est quand même une des branches de la famille royale. Donc il va acheter tous les portraits historiques français qu'il va trouver à l'étranger. Et il y en a beaucoup en Angleterre. Au milieu du XIXe siècle, beaucoup de collections étaient sorties. Une des plus importantes est celle d'Alexandre Lenoir. Alors, qui est Alexandre Lenoir? C'est un conservateur de musée. C'est un homme qui a sauvé de la destruction des œuvres qui était quasiment condamné par la Révolution française, parce que conservé dans des monuments royaux, ou simplement ayant appartenu à de grands personnages, je pense au château d'Écouens, mais je pense au château des rois Louis XV et Louis XVI, Choisy par exemple. Et donc Alexandre Lenoir a récupéré tous ces objets précieux et les a installés dans un musée de sculpture qui se trouvait tout près de l'Institut de France. C'est l'emplacement de l'actuelle École des Beaux-Arts de Paris, hein. Et donc la collection d'objets d'Alexandre Lenoir va devenir très importante. Il en est le conservateur. Mais en tant que spécialiste et qu'amateur, Lenoir va aussi créer une collection personnelle. Une collection très importante, 130 dessins, une quarantaine de tableaux. Voilà, cette collection, elle est faite aussi de trésors qu'il n'a pas pu faire rentrer dans les collections publiques du Musée des Monuments Français, ni dans celle du Musée du Louvre. Et donc cette collection, il va très vite songer à la vendre. Il songe à la vendre à Louis XVIII, qui découvrant dans la collection de Lenoir des œuvres qui étaient, par exemple, à Choisy, je pense au portrait de Marie-Antoinette Dauphine, qui est aujourd'hui à Chantilly, il dit, voilà, on n'achète pas, c'est des œuvres de provenance douteuse, évidemment. Donc, échec de la vente en France. Après, Lenoir proposera la collection également au roi Charles X, puis au roi Louis-Philippe, ça échouera toujours. Donc la collection, elle est sortie de France, il a fini par la vendre en Angleterre, peu avant sa mort. Et là, le duc d'Aumale va découvrir cette collection Lenoir avec les portraits qui vont des rois de France du XVIe siècle jusqu'à la Révolution. Hein, depuis les Montmorency, depuis Henri II, depuis François Ier, jusqu'à la jeune Marie-Antoinette Dauphine. Et cette collection de portraits historiques français, pour Luc d'Aumale, c'est une hérésie que ça demeure en Angleterre. Il faut donc faire rentrer ça en France. À l'époque, la devise du duc d'Aumale, c'est « j'attendrai ». Alors qu'attend-il le retour des Orléans sur le trône, certainement, mais aussi sans doute le retour de lui-même sur le sol français et donc l'arrivée en France de ses chefs-d'œuvre qu'il va pouvoir donc rendre à sa patrie, à la France.
Et cet événement se produit, c'est Chantilly qui sera l'écrin de cette magnifique collection. Le duc d'Aumale a vraiment cette idée de transmission très, très présente et il va s'assurer qu'après sa mort, cette collection reste dans son intégrité, conservée à Chantilly.
Oui, alors il y a un drame évidemment dans la vie du duc et de la duchesse d'Aumale. C'est la mort de leurs enfants qui explique tout. Le duc et la duchesse sont cousins germains. Elle a eu 7 grossesses. 5 enfants mourront à la naissance, mort-nés ou morts de maladies infantiles en très bas âge. Et ils n'élèveront que 2 garçons. Donc le duc de Guise, qui meurt à 18 ans d'une maladie infectieuse, une typhoïde probablement. Donc au moment du retour en France, en 1872, et l'aîné qui relevait le nom de la maison de Condé, le prince de Condé, Louis d'Orléans, était déjà mort à l'âge de 21 ans lors d'un voyage. Il avait contracté la fièvre jaune en Australie. Donc il n'y a pas de descendant direct. Donc ce que le duc d'Aumale va laisser, en revanche, il a 39 neveux et nièces. Et ce qu'il a sur cette terre, c'est sa collection. Donc sa collection, il ne peut pas la séparer, la partager entre ses neveux et nièces. En plus, il ne s'entend peut-être pas très bien non plus avec son neveu aîné, l'héritier du trône, le comte de Paris. Et donc, il va décider que cette collection doit rester groupée dans son château de Chantilly. C'est évidemment l'histoire de sa vie. L'accrochage même des salles du musée Condé, C'est sa généalogie. Quand on regarde la galerie de peinture qui est la salle principale du musée avec 85 chefs-d'œuvre, on a d'un côté la collection italienne qui vient du côté de sa femme, c'est la collection de Salerne, hein, celle de son épouse, donc la collection de Bourbon-Sicile qui vient aussi de sa mère, c'est le côté italien, comme par hasard sont des tableaux religieux. Son épouse, sa mère sont des femmes très, très pratiquantes, grandes catholiques. De l'autre côté, on a la collection de peinture française avec des tableaux qui viennent de la galerie du Palais-Royal, des œuvres qu'il a rachetées à la vente des biens du roi Louis-Philippe, hein, au début de l'exil. Voilà, donc tout ça, cet accrochage, il ne veut pas qu'on y touche. Donc il va effectivement décider de léguer sa collection telle qu'elle est présentée dans Chantilly avec une double interdiction qu'il va faire à l'Institut de France. Ne pas prêter les collections hors de Chantilly, il a très peur de l'éclatement de la collection. Et surtout ne pas modifier cette présentation qui reflète l'état de sa vie, qui raconte son histoire personnelle quelque part. Et sur le mur français, où il y a les tableaux de la collection d'Orléans, on a aussi des tableaux militaires qui évoquent naturellement les campagnes qu'il a menées. Alors il y a des références à Napoléon, parce que c'est très important chez les Orléans, les références à l'épopée des Bonaparte. Hein. Tout le monde est militaire dans la famille, le duc d'Aumale lui-même se définit avant tout comme un soldat. Donc il s'intéresse aussi à cet aspect des choses. L'héritage de Bonaparte est très important pour la monarchie de Juillet déjà, avec son frère Joinville qui ramène les cendres de Sainte-Hélène pour les placer aux Invalides. Voilà, donc tout est parlant dans son accrochage et il constitue en quelque sorte lui-même son mémorial avec ce château de Chantilly qui aujourd'hui ne doit pas être modifié.
C'est justement l'une des missions qui vous est confiée parce qu'aujourd'hui, vous avez la charge de ces collections. J'imagine que vous avez un rapport particulier au duc d'Aumale, à son esprit qui est encore très présent.
Bien sûr. C'est quelqu'un dont la mémoire plane parmi nous. Hein. On disait du premier conservateur du musée Condé, Gustave Macon, qui a été pendant 33 ans le conservateur du musée Condé et qui a été désigné à cette fonction par le duc d'Aumale lui-même dans son testament, que quand il faisait visiter les appartements du prince, il frappait à la porte du prince 30 ans après sa mort en demandant « Est-ce que Monseigneur permet ?» Alors on n'en est plus aujourd'hui tout à fait là, mais la mémoire du duc d'Aumale, c'est quelque chose de très important. Et on est très attaché à essayer de comprendre comment il a disposé ses collections dans son château, pourquoi il les a acquises, pourquoi il a acquis cette œuvre-là et pas telle autre, et comment il a constitué cet héritage qu'il a légué à la France. Parce que Chantilly, c'est une collection de tableaux extraordinaires, sans doute là, seconde en France après celle du Louvre, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est un membre éminent de l'Académie française, c'est Pierre Rosenberg qui nous a fait l'honneur de dire que c'était une des plus grandes collections de tableaux du 15e ou 19e siècle, au milieu du 19e siècle. Hein. Il n'y a pas d'art contemporain dans la collection du duc d'Aumale. Le duc d'Aumale, qui est mort en 1897, aurait pu acquérir des œuvres réalistes, Courbet, Daumier, trop à gauche pour lui, trop progressiste. Il aurait pu aussi, après 1874, acquérir de la peinture impressionniste. Mais c'est une peinture qui ne l'intéressait pas. Il aimait que la peinture lui raconte une histoire. Donc il est vraiment attaché à l'histoire de l'art classique, la peinture italienne, depuis la Renaissance. Il va aussi acheter beaucoup de tableaux primitifs avec la collection de Rézé, après 1879. Il va s'appuyer donc sur la collection d'un grand conservateur du Louvre, hein, Frédéric Rézé, qui a constitué une collection de primitifs italiens. Il va donc faire entrer à Chantilly ainsi en rachetant la collection en bloc, 40 tableaux qui étaient dans les bureaux de Rézé au Louvre, dans sa collection personnelle. Et ça va complètement enrichir la collection du duc d'Aumale. Donc une collection très riche, une collection très importante, une bibliothèque aussi qui est très riche, avec plus de 300 manuscrits médiévaux enluminés, avec ce qu'on a pu dire être le plus beau manuscrit du monde, les très riches heures du duc de Berry, du haut frère Limbourg, manuscrit du début du 15e siècle, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Et donc, là aussi, pour Aumale, c'est un achat de jeunesse et un achat qui doit faire retrait en France. Il découvre les très riches lorsqu'il est encore un tout jeune homme. Hein. Il a une trentaine d'années. Il est en Italie, on est pendant l'exil. Hein. Il va voir sa mère, la reine Marie-Émilie, qui est malade, qui est à Gênes. Et on va lui parler d'un manuscrit français conservé dans un collège de jeunes filles. On ne sait pas très bien ce que c'est. Bien, il va voir, bien sûr, puisqu'il est bibliomane. Hein. Il est atteint de bibliomanie, comme il l'a dit avant 48. Il va découvrir ce manuscrit français absolument superbe. On découvrira après que ce sont les très riches du duc de Berry. Donc son idée, c'est de faire rentrer ce manuscrit somptueux en France, un jour. J'attendrai. Il attend toujours le retour en France, qui n'arrivera en fait qu'en 1871.
La France revient tout le temps dans vos mots, dans vos propos. Oui. On la sent derrière la collection du duc d'Aumale, derrière sa carrière militaire, même derrière son engagement politique. Lui, quelle idée a-t-il de la France dans un siècle qu'il n'a cessé de voir des changements de régime ?
Alors, ce fils de roi a servi la République. Ça, c'est très important de le dire. De même qu'en 48, il s'est incliné devant la volonté du peuple, qui a chassé son père du trône. En 70, il demande à combattre pour son pays. Il est doyen de l'armée française, il demande à exercer donc ses fonctions. La République naissante va lui refuser. On a bien trop peur d'avoir les princes d'Orléans, qui sont jeunes, brillants et bons militaires, voilà, s'illustrer un peu trop et mettre en péril la République naissante. Quand il rentre en France en 71, il va reprendre des fonctions militaires assez vite. Déjà, on va lui confier le procès de Bazaine. Alors ça, c'est maréchal Bazaine, c'est Sedan, c'est quelqu'un qui
avait failli. Alors qui est Bazaine, peut-être pour nos auditeurs?
Oui, le maréchal Bazaine, donc, qui a failli devant Sedan, qui dira à son procès devant le duc d'Aumale, qui est chargé du procès, mais il n'y avait plus rien. Et le duc d'Aumale lui répondra « Monsieur, il restait la France ». Et donc, Aumale va se tirer très bien de ce procès, qu'on lui jette un peu comme un os à ronger, et aussi peut-être pour ternir un peu sa réputation, en se disant que ça allait être très compliqué pour lui. Il va s'en tirer admirablement. C'est là où l'homme politique, en plus de l'amateur et le collectionneur, va se révéler. Il va mener de main de maître le procès de Bazaine. Bazaine sera condamné, mais ensuite finalement gracié. Et donc le duc d'Aumale va entamer une carrière politique. Il va devenir député de l'Oise. Il va être président du Conseil général de l'Oise pendant de longues années. Il va aussi demander rapidement à reprendre des fonctions militaires. Il est encore jeune. En 73, il a une cinquantaine d'années, 51 ans. Donc il va être chargé du 5e corps d'armée qui est à Besançon. Il va donc diriger l'armée française aux frontières de
l'Est.
Voilà, aux frontières de l'Est, puisque l'Alsace et la Lorraine, bien sûr, ont été amputées. Et si on regarde notre galerie de peinture à Chantilly, où il n'y a que des tableaux finalement anciens, tableaux italiens du 16e et 17e siècle, tableaux français, des portraits historiques, eh bien, qu'est-ce qu'il va mettre dans l'axe de sa rotonde ? Jeanne d'Arc écoutant ses voix, une sculpture contemporaine, la seule de la galerie, c'est Chapu qui nous montre Jeanne d'Arc écoutant ses voix, c'est-à-dire Jeanne d'Arc devant aller bouter l'ennemi hors de France. C'est un peu le message. Il faut absolument récupérer l'Alsace et la Lorraine. Et donc ça, c'est quelque chose auquel le duc d'Aumale va être très attaché. Donc ce fils du roi Louis-Philippe ne craindra pas de servir la République. Et on connaît l'anecdote, hein, quand il est à Besançon, il y a un républicain qui vient tirer la bride de son cheval alors que il y a une promenade militaire en ville, et donc il lui crie « Vive la République !» Et le duc d'Aumale répondra « Vive la République !» Il n'a aucun problème à servir la République, faire la fonction, comme dans leur enfance, lorsque les princes d'Orléans entouraient le roi Louis-Philippe.
Eh bien, un grand merci, Nicole Garnier, de nous avoir fait découvrir ou mieux connaître le duc d'Aumale. Je rappelle que cette émission est proposée par France Mémoire, et vous trouverez sur le site de France Mémoire tout un dossier consacré à ce personnage. C'est sur internet france-mémoire.fr. Merci et à bientôt.
Merci.